La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Bonjour et bienvenue dans la tête au carré. Ordinateur, console de jeu, smartphone, tablette, les écrans sont partout et les enfants, dès leur plus jeune âge, en raffolent. Mais quel est l'impact du numérique sur leur cerveau en construction? Quels sont les effets de ces écrans omniprésents sur leur capacité de concentration, de mémorisation ou d'apprentissage? Et dans quelle mesure ces technologies peuvent-elles favoriser l'éveil et le développement cognitif de ces enfants tombés dans la marmite du numérique? C'est ce que nous allons voir avec deux spécialistes de ces questions, Elena Pasquinelli et Olivier Houdet. Je vous les présente dans un instant. Pour participer à la discussion et nous adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Daniel.
À la une de la science, la sonde Parker de la NASA qui bat tous les records.
Oui, depuis hier, elle est à la fois la sonde la plus proche du Soleil, mais aussi la plus rapide jamais envoyée par l'homme. Sa vraie mission commence la semaine prochaine, on vous explique tout dans un instant.
Voilà pour le programme de cette tête au carré, réalisé par Benjamin Riquet et préparé par Sophie Vaux.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Autour de la table, Elena Pasquinelli, chercheuse en sciences cognitives et auteure de « Comment utiliser les écrans en famille » aux éditions Odile Jacob, et Olivier Houdet, chercheur en psychologie du développement, auteur de « Apprendre à résister » aux éditions Le Pommier. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Elena Pasquinelli, dès leur plus jeune âge, les enfants semblent aimantés par les écrans. Est-ce qu'il y a une explication scientifique à cette fascination presque instinctive des écrans?
On arrive à trouver des explications scientifiques si on va regarder dans le passé de notre cerveau et dans sa longue histoire évolutive.
Oui. C'est-à-dire que si on va chercher du côté du cerveau de l'homme des cavernes, qui n'a pas beaucoup changé, il y a déjà des débuts d'explication.
Exactement, chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, très très loin dans le temps.
Oui, on aura l'occasion d'en parler évidemment. Olivier Houdet, dans le laboratoire que vous dirigez, le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, vous étudiez justement ce qui se passe dans le cerveau des enfants lorsqu'ils sont devant un écran. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir ?
Laboratoire du CNRS, il faut le rappeler dans une émission comme la vôtre, nous réalisons pour l'instant le tout premier programme de recherche scientifique en France, et l'un des en pointe dans le monde, je peux le dire, où l'on observe au cours du temps, c'est-à-dire entre un pré-test et un post-test, avant un mois et après un mois, l'impact de jeux sur écran sur le cerveau des enfants. Et non seulement sur leurs activités cognitives, mais aussi émotionnelles et sociales. Et en fait, il y a énormément de débats, on va encore en avoir un aujourd'hui, il y a très peu de données scientifiques. Il faut les acquérir, il faut de la recherche développementale, et la révolution numérique est tellement proche de nous qu'on est un peu comme si nous étions juste après la révolution de l'imprimerie, on se demandait si les livres étaient bons pour l'intelligence des enfants.
Ouais, tout un programme. Quels sont les effets des écrans sur le cerveau des enfants? C'est ce que nous allons voir dans le dossier de la tête au carré cet après-midi. Pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Cap sur le soleil, notre étoile est à la une de la science, Axel Villard.
Oui Daniel, puisque c'est la sonde Parker de la NASA qui nous intéresse aujourd'hui. Elle est partie le 12 août dernier et depuis hier, elle est l'objet artificiel le plus rapide du système solaire. Elle fonce à 246 000 km/h pour aller étudier notre astre sous toutes les coutures et ça commence la semaine prochaine. Et nous sommes pour en parler en duplex depuis les locaux de France Bleu Occitanie avec vous Alexis Rouillard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRAP qui est l'Institut de Recherche en Astrophysique et en planétologie et co-investigateur de la caméra Whisper qui se trouve sur la sonde Parker. Alors depuis le 24 octobre, Parker est la sonde opérationnelle la plus proche du Soleil et elle va continuer de descendre, cette descente aux enfers va continuer. Quand est-ce que le point le plus chaud sera atteint, Alexis Rouillard?
Donc la sonde sera au plus près du Soleil en 2024, pendant la phase nominale, donc à 9,8 rayons solaires. Donc c'est la première mission à aller dans l'atmosphère d'une étoile. Et donc, ce sera à ce moment-là que le flux électromagnétique sur la sonde sera au plus fort et que l'on pourra prendre des mesures critiques sur cette atmosphère.
Et quelle température fait-il quand on est à 8 rayons solaires du Soleil, alors?
Alors, la température du milieu ambiant, qui est constituée d'un gaz qui est totalement ionisé, est de l'ordre du million de degrés Kelvin.
Oui.
Et c'est une température qui provient d'un processus de chauffage que l'on ne comprend actuellement pas. On a plusieurs théories sur la manière dont l'atmosphère solaire est chauffée à ces hautes températures, mais actuellement, on n'arrive pas à trancher entre les différentes théories. Et là, Parker Solar Probe va nous permettre de prendre des mesures dans cette atmosphère et de tenter de décider entre les différentes théories qui ont été proposées jusque-là.
Oui, et on imagine toute la difficulté de mettre au point une sonde avec des instruments capables d'opérer dans une telle atmosphère surchauffée.
Oui, tout à fait. C'est une merveille technologique, hein, cette sonde Parker Solar Probe. Il a fallu résoudre énormément de problèmes techniques avant de pouvoir donc construire l'instrument et puis ensuite le tester et ainsi de suite. Actuellement, la sonde est dotée d'un bouclier thermique qui protège la plupart des instruments qui sont situés derrière ce bouclier et qui donc bloque les émissions électromagnétiques du soleil et permet aux instruments en fait d'opérer à température ambiante.
Ah bon ?
Alors que lui, le bouclier thermique sera chauffé à plus de 1000 degrés.
Vous voulez dire que quand on est derrière le bouclier protégé, on est à une température de quelques degrés seulement ?
Voilà, 20-30 degrés à peu près. Ouais.
Alors, sacrée isolation, hein, tout de même.
Vous disiez qu'il a fallu très longtemps pour développer les instruments. On peut citer l'instrument Whisper que vous avez mis en place depuis 10 ans avec la NASA, qui est une caméra. Oui. Mais fait intéressant, cette caméra ne sera pas braquée sur le Soleil, puisque sinon elle cramerait. Qu'est-ce qu'elle va regarder alors, cette caméra ?
Alors, la caméra permettra de regarder les écoulements de gaz en provenance du Soleil, donc ce gaz ionisé, ce plasma, depuis quelques rayons solaires jusqu'à des grandes distances. Les grandes distances qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de rayons solaires, donc à peu près les distances où la Terre est en orbite. Donc ce sont des caméras qui nous permettent de suivre à la fois la formation du vent solaire au travers de lumière, en fait, qui est diffusée par les électrons du vent solaire. Donc dans ce gaz, il y a des électrons qui diffusent la lumière qui est en provenance du Soleil. Et cette lumière nous est renvoyée. Et l'instrument Whisper nous permet de regarder en fait les fluctuations en densité dans ce milieu et de suivre l'évolution, la formation du vent solaire et sa propagation dans l'espace.
Est-ce que vous avez déjà commencé à recevoir des images de cette caméra Whisper ?
Oui, on a reçu donc une première image lors du commissioning qui a eu lieu au mois de septembre. Et puis, qui sont des images de très grande qualité, parce qu'on a énormément de résolution en pixels.
Et qu'est-ce qu'on voit alors sur ces images de très haute résolution ?
Alors actuellement, au tout début, on observe une brillance très faible, hein, dans le vent solaire, puisqu'on regarde très loin. Mais au fur et à mesure qu'on va se rapprocher, on va de plus en plus détecter la brillance de l'atmosphère, qui est donc cette lumière qui est diffusée par les électrons. On voit en fait le vent solaire directement s'écouler dans l'espace.
Et ces premiers clichés, c'était des clichés tests, il me semble, puisque normalement c'est dans la semaine prochaine que vous allez commencer à entrer dans la couronne solaire, c'est la couche la plus extrême de l'atmosphère du Soleil. Qu'est-ce qui va changer à ce moment-là alors ?
Alors, on va se retrouver dans une situation très particulière d'un point de vue observationnel. On avait équipé des missions précédentes avec de telles caméras, notamment la mission Stereo, qui est une mission de la NASA, en orbite aussi, aux distances typiques de la Terre, donc une unité astronomique. Mais là, pour la première fois, donc on a ce type d'instrument sur une sonde qui se rapproche du Soleil. Et une des particularités, c'est que le plasma qu'on va regarder va se situer de plus en plus près de la sonde, d'un point de vue optique. Ça résulte en fait de la manière dont la lumière est diffusée. Mmh. Et donc ça veut dire que ces caméras vont à la fois nous donner des informations sur les écoulements à grande échelle, puisqu'on a un grand champ de vue, mais en même temps, en augmentant la cadence temporelle des images, puisque la brillance est plus élevée, on n'a pas besoin d'avoir des temps d'exposition très longs. En augmentant la cadence temporelle, on va pouvoir commencer à regarder les fluctuations du vent solaire. Et ces fluctuations, elles sont soupçonnées comme étant des signatures de processus qui ont lieu dans la couronne et qui évoluent avec la distance. Et certains de ces processus pourraient être impliqués dans le chauffage de la couronne.
Et est-ce que depuis cette couronne, on va pouvoir répondre à cette grande question de pourquoi la surface du Soleil est plus chaude que l'intérieur ? Est-ce que cette sonde est là aussi pour cette question-là ?
C'est une vraie énigme, hein, ça. Pourquoi le pourtour du Soleil, l'atmosphère solaire, est plus chaude que le cœur du Soleil lui-même ?
Absolument. Donc, le reste de l'instrumentation est dédié à des mesures qui sont in situ, des propriétés du plasma. Et on espère que grâce aux mesures du champ magnétique, des vibrations du champ magnétique de la couronne, par exemple, on va être capable d'estimer les flux d'ondes qui pourraient être impliqués dans ce chauffage, in situ directement.
Merci.
Un des soucis que l'on...
Oui, oui ben, finissez, je vous laisse conclure.
La difficulté que l'on rencontre en fait à unité astronomique, c'est-à-dire près de la Terre, quand on prend ce type de mesures, c'est qu'elle reflète en fait de propriétés qui ont beaucoup évolué entre le Soleil et la Terre. Et donc on est incapable à partir de ces mesures de trancher entre les différentes théories parce qu'il y a trop de choses qui se sont déroulées dans le plasma en fait, entre le Soleil et la Terre. Donc en se rapprochant, en allant dans la zone de chauffage, on espère obtenir les mesures qui vont nous permettre de décider entre une théorie ou l'autre.
De trancher. Merci Alexis Rouillard de nous avoir emmenés si près du Soleil. Et Axel, à demain.
À demain Daniel.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, hier après-midi, la NASA a officiellement annoncé la mort du télescope spatial Kepler. À court de carburant, le grand chasseur de planètes évoluant hors de notre système solaire a définitivement terminé ses observations. Lancé en 2009, il a permis la détection de milliers d'exoplanètes, dont 2600 ont déjà été confirmées par d'autres observations. Kepler a ouvert la voie à l'exploration du cosmos par l'humanité, a commenté William Borkery, qui dirigeait la première équipe scientifique de Kepler pour la NASA. Et puis les résultats d'une enquête en haute atmosphère. Depuis 2012, des produits interdits s'échappent de la surface de la Terre et ralentissent le rétablissement de la couche d'ozone. Après 4 ans d'investigation, une équipe internationale a identifié la source de ces émissions illicites. Les chercheurs montrent que la région chinoise de Shandong n'a jamais vraiment cessé d'émettre les fameux tétrachlorures de carbone, pourtant interdits depuis plus de 10 ans. Plus grave, ces émissions ont augmenté depuis 2012. Les scientifiques espèrent que leurs travaux permettront aux autorités chinoises d'identifier les industries fautives et de remédier aux problèmes. Et pour terminer, le plus grand oiseau de l'histoire était peut-être aveugle. L'oiseau éléphant de Madagascar pesait 1 demi-tonne et mesurait 3,5 mètres de haut. Il s'est éteint il y a environ 1500 ans. L'analyse de 2 crânes fossiles de ce géant montre que ses lobes optiques, zone du traitement de l'image dans le cerveau, étaient quasiment inexistants. Les chercheurs pensent que l'oiseau éléphant vivait la nuit et fouillait le sol de la forêt pour chercher sa nourriture, un peu à l'image de son cousin, le kiwi nocturne actuel. L'impact des écrans et du numérique sur le cerveau des enfants, c'est le thème du dossier de la Tête au Carré dans un instant.
Une femme, c'est grand, c'est fort et rassurant. Une femme, tantôt bourgeon, tantôt lion. William, qui règne des rêves d'Ève, d'Adam. C'est comme un toucan, c'est rassurant. Un homme qui s'envole et se love au creux des femmes. Alors il s'allonge loin du macadam, loin du macadam. Et
C'était Amour de Rameau sur France Inter.
L'expérience a été menée dans quatre familles parfaitement banales des temps modernes, c'est-à-dire où des enfants ont les yeux rivés sur leur tablette. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux, alors qu'autour d'eux, la réalité change. Les parents sont complices de l'expérience. Début modeste avec changement des tableaux au mur, aucune réaction. Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé.
Et on s'intéresse aux effets des écrans sur le cerveau des plus jeunes dans la tête au carré cet après-midi avec Elena Pasquinelli, chercheuse en sciences cognitives et philosophe, spécialiste de l'apprentissage, auteur de « Comment utiliser les écrans en famille » aux éditions Odile Jacob. Également avec nous Olivier Houdet, professeur à l'Université Paris Descartes. Il dirige à la Sorbonne le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, un laboratoire CNRS. Son livre s'intitule « Apprendre à résister » aux éditions Le Pommier. C'est intéressant, je vous voyais réagir, Elena Pasquinelli, sur cette expérience édifiante dans une famille où chaque membre, en tout cas chaque enfant, est rivé sur son écran et ne se rend absolument pas compte des changements quand même assez notables qui s'opèrent autour d'eux. Ça dit quelque chose quand on est face à ces écrans, on est coupé du monde qui nous entoure.
Ça dit quelque chose des écrans, mais pas nécessairement que des écrans. Ça dit quelque chose de l'attention de façon plus générale. En fait, ces types d'expériences de substitution de personnes ou de vêtements me rappellent bien des expériences qui ont été menées par des psychologues cognitifs il y a quelques années, justement sur l'attention, et où il n'était pas question d'écran, mais où il y avait, par exemple, dans une expérience, l'expérience de la porte. Il y avait des sujets qui se baladaient dans un collège américain, dans une université américaine, et qui allaient demander à des personnes qui se baladaient aussi sur le collège des informations de comment trouver un bâtiment. C'est toujours très compliqué. Et pendant la conversation, il y avait quelqu'un qui transportait une porte vitrée, qui passait entre les deux personnes en train d'échanger à propos du campus. C'était en réalité une petite expérience comme celle qu'on a entendue. Et donc, entre-temps, la personne à laquelle avait été demandée l'information, changeait. Ah, c'était quelqu'un d'autre, elle était substituée par quelqu'un d'autre. La porte passait et la conversation reprenait sans que l'interlocuteur s'aperçoit de rien du tout. Donc, quand on dit que les écrans attirent beaucoup l'attention, bien sûr, mais ils ne sont pas les seuls à attirer l'attention. C'est plutôt le fait que notre attention est plutôt limitée quand on est en train de faire quelque chose, de se concentrer sur un jeu, mais aussi de se concentrer sur un livre ou de se concentrer sur une conversation. On ne regarde pas nécessairement tout ce qu'on a autour, les tableaux, les vêtements de maman. Et on peut aussi passer sur, effectivement, un changement autour de nous.
Oui, Olivier Houdet, c'est vrai que finalement, c'est assez ambivalent. On dit souvent, ces écrans multiplient un petit peu, enfin, font des distractions qui font qu'on a du mal à se concentrer. Mais d'une certaine manière, là, les enfants étaient tellement concentrés, absorbés par leur écran, qu'ils en oublient le monde extérieur. Mais du coup, la capacité d'attention est quand même importante avec ces écrans.
Oui, mais il faut dissocier les variables. C'est-à-dire que si on est plongé dans un livre, comme l'a dit Elena, et de tout temps on a su que quelqu'un plongé dans un livre, dans un roman ou dans un récit historique, peut totalement ignorer l'environnement qui l'entoure. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on attribue aux écrans des effets parfois négatifs ou positifs qu'ils n'ont pas. Et pour moi, le débat, ce ne sont pas les écrans, c'est quel processus cognitif du cerveau se déploie face aux écrans. Vous pouvez, avec un écran, faire un jeu éducatif qui éveille le nombre et les mathématiques, qui éveille la catégorisation et les taxonomies. Vous pouvez aussi, sur écran, raisonner, ne pas répondre trop vite, ce que j'appelle apprendre à résister, et déclencher vos processus de raisonnement. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet de société. Les fake news sont précisément des pseudo-raisonnements, des raccourcis de pensée auxquels on ne résiste pas parce qu'elles sont très crédibles, ces informations fausses. Eh bien, voilà une vraie question. Que fait-on avec notre cerveau face aux écrans? Et permettez-moi encore de dire une chose, c'est très intéressant ce qu'on a entendu tout à l'heure sur l'espace. Le mot caméra a souvent été répété parce qu'en effet, en science, c'est grâce aux technologies que l'on progresse et aux théories. Eh bien, nous avons aujourd'hui, mais seulement depuis une dizaine d'années, des caméras d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle qui permettent d'explorer les lois de l'esprit. Et déjà Newton disait, on commence à découvrir les lois de l'espace, il y a quelques siècles, en tant que physicien, aux psychologues de découvrir les lois de l'esprit. Mais il nous manquait la technologie. Donc c'est aussi grâce à l'informatique et aux écrans que l'on peut reconstruire sur écran la représentation tridimensionnelle, point par point, au millimètre près, du cerveau d'un enfant face à un écran. Alors, et là, on entre dans le vrai sujet. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans l'écran? C'est-à-dire à la fois une machine biologique et une machine électronique. Et ce sont les processus qu'il faut comprendre. Oui. La question que vous posez portait sur l'attention, mais aussi le raisonnement, la mémoire, interne ou externe. Et alors, pour moi, les débats deviennent intéressants.
Ouais. Alors, justement, qu'est-ce que l'on observe quand on regarde dans le cerveau d'un enfant qui utilise les écrans? Est-ce que le cerveau fonctionne différemment que lorsqu'il lit un livre? Est-ce que les processus cognitifs ne sont pas les mêmes?
Non. Quand vous lisez un livre, se décline un processus beaucoup plus linéaire, plus lent, analytique, qui correspond physiquement au fait que vous tournez les pages. Sur écran, c'est simultané. Vous avez du switching rapide. L'analyse cognitive du cerveau, pour un livre par exemple, est plus lente, plus profonde. Sur écran, elle est tellement rapide qu'elle est très large. Vous cliquez sur plein de liens, vous avez plein d'informations, ce qu'on appelle une méta-mémoire, mais les informations ne sont pas nécessairement connues en profondeur, il n'y a pas vraiment un raisonnement. C'est possible, et c'est ce que j'appelle apprendre à résister. Il faut ne pas répondre trop vite face à l'écran, tourner 7 fois son pouce dans sa main avant de tweeter, dirait-on à un chef d'État bien connu, mais aussi à chaque enfant, apprendre ce contrôle de soi. Et ce qui est tout à fait nouveau, c'est que l'imagerie cérébrale nous permet de mieux comprendre les processus du contrôle de soi. Et nous avons montré par l'expérience que j'évoquais tout à l'heure, en effet, que la ligne de base du cerveau peut changer après un mois de jeu sur écran, mais on peut la faire changer de façon différente, car tout dépend du processus cognitif et éducatif que l'on déploie face aux écrans.
Et puis du jeu aussi, et j'imagine qu'il y a derrière l'écran.
Nous, en recherche, vous comprenez les enjeux. La recherche fondamentale du CNRS explore l'impact du jeu sur écran avec les enfants. Mais le jour où on aura découvert ce qui est bon pour le cerveau, un label bon pour le cerveau, comme le label bio dans le domaine alimentaire, eh bien, en effet, ça pourra inspirer avec des vraies données scientifiques, l'industrie du jeu numérique qui, comme vous le savez, est l'une des plus florissantes au monde.
Oui, Elena Pasquinelli, sur la mémoire, hein, Olivier Houdet évoquait la mémoire. Est-ce qu'on a aussi une idée de ce monde numérique sur la mémoire des enfants et plus généralement la nôtre? Mais on imagine au moment où il faut tout apprendre, où cette mémoire se développe.
Les études comme celles que décrit Olivier sont encore rares, hein, celles qui permettent effectivement d'identifier de façon précise, hein, de façon vraiment vraiment sophistiquée et très précise l'impact de l'utilisation des écrans sur une fonction ou sur une autre. Déjà, il faut dire que quand on parle d'écran, bah, on parle d'une famille qui est gigantesque, hein, utiliser le téléphone, utiliser l'ordinateur pour travailler. Combien sont différentes toutes ces applications? Vous avez déjà dit les jeux. Donc, il est très difficile de généraliser. Une chose qu'on peut dire, sûrement, si on va regarder les usages, mais aussi si on va regarder quels sont les processus de base du fonctionnement de la mémoire, c'est que les écrans, au sens des écrans qui ont des contenus informatifs, nous amènent à faire beaucoup d'externalisation. Je pense au GPS, par exemple. Hein, on utilise un GPS, on externalise le besoin d'aller se faire une carte mentale d'un endroit. On l'externalise sur un objet externe. C'est très bien, c'est pratique. Hein. Oui. C'est extrêmement pratique pour ne pas se perdre.
Mais comme on délègue, on s'entraîne moins.
Mais comme on délègue, ben, non seulement on s'entraîne moins, mais on a l'impression qu'on n'a plus besoin d'apprendre des choses et de les mettre, entre guillemets, dans la boîte crânienne qui est sa mémoire interne. Hein. Tout est sur la mémoire externe et ça suffit. Pour des plus jeunes, ça peut donner une fausse impression justement que, puisque tout est là à l'extérieur, dans Wikipédia, disons comme ça, ben on n'a pas justement besoin de l'apprendre. Donc on s'est déshabitué à le faire, alors que ce qu'on sait sur la mémoire, c'est que c'est un outil puissant, non seulement pour se souvenir, mais pour penser, pour interpréter, pour raisonner, comme le disait Olivier. Quand on lit un texte, la capacité de l'interpréter, de le comprendre, ne dépend pas seulement de la capacité de décrypter hein, les lettres, les syllabes, mais bien de la connaissance qu'on a de certains de ces contenus. Essayez de lire un texte de baseball si vous n'y comprenez strictement rien, si vous n'avez pas des connaissances sur le baseball, ça va devenir extrêmement difficile.
Alors il y a aussi, vous l'avez dit, parmi ces écrans, il y a les jeux vidéo qui inquiètent parfois et depuis longtemps. Écoutez sur quel ton on abordait le sujet en 1992 dans Envoyé spécial.
Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis, les jeux vidéo. 3 millions de mordus, uniquement en France, des ventes qui ont progressé de plus de 300% l'an dernier. Le succès commercial est exceptionnel, mais en même temps, revers de la médaille, on assiste à quelques perturbations dans la vie des enfants. Certains accros passent jusqu'à 8 heures par jour devant leur écran. Ils en oublient de manger, délaissent le travail à l'école, bref, le phénomène commence à poser problème.
Quand on commence à jouer, quand on commence à voir l'écran, l'image qui commence à dessiner, le petit vaisseau ou le personnage qui apparaît, alors tout de suite on se sent dans un autre monde. Enfin, pour moi, je me sens dans un autre monde. J'ai l'impression de me croire dans le jeu avec le personnage. Et puis, des fois, je vois pas le temps passer, alors je suis perdu.
Mais tu pourrais trouver ce même genre d'histoire, ce même genre de personnage dans des bouquins. Pourquoi l'ordinateur ?
C'est plus vivant.
Bon, on a un peu évolué hein, sur la façon de parler de ces jeux vidéo. On estime aujourd'hui à 2,5 milliards le nombre de personnes dans le monde qui jouent à ces jeux vidéo. Alors quand même, l'OMS, en juin dernier, a déclaré qu'on pouvait être addict hein, aux jeux vidéo. Il existe, selon l'OMS, des troubles de l'addiction aux jeux vidéo. Quel regard vous portez là-dessus, Elena Pasquinelli ?
Je pense que celle de l'addiction, c'est une question extrêmement compliquée et délicate sur laquelle moi j'ai du mal à me prononcer de façon nette. Hein. C'est une question, quand on prononce l'existence d'une addiction, on le fait aussi parce que ça nous permet d'avoir des critères un peu stricts, fermes, pour aller dépister et voir combien pourraient réellement être les personnes qui subissent ce type de problématique. Alors que quand on l'a pas, quand on n'a pas de définition, on a assisté pendant les dernières années à des études qui allaient de 2% des personnes avec un usage problématique de l'écran à 16%. Parce qu'on manquait des critères précis. Donc c'est bien, si on a des critères précis, de pouvoir effectivement estimer s'il y a une petite partie, parce que ça reste une petite partie de la population, qui a un problème d'addiction lié aux écrans.
Olivier Houdet, l'addiction aux écrans, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Par analogie, on parle d'addiction, comme il y a des addictions à la drogue. On pourrait dire c'est comme une forme de drogue cognitive, d'image, de mouvement. Mais il est sans doute plus prudent de parler de pratiques excessives, ce que recommande l'Académie de médecine en France et aussi l'Académie des sciences. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pratiques extrêmes qui, comme dans les cas évoqués, prennent un grand nombre d'heures par jour, diminuent les relations sociales, font que l'enfant refuse de passer à table. Donc, c'est vrai qu'il faut dire aussi que les écrans peuvent être négatifs. Fatigue visuelle, myopie précoce, troubles du sommeil. Dans le livre que je vous ai offert, Le cerveau et les apprentissages, il y a un chapitre sur le rôle du sommeil dans la consolidation des apprentissages. Donc c'est extrêmement précieux le sommeil. Donc l'écran, dans sa pratique excessive, peut avoir un effet indirect. Mais de toutes les façons, il faut éduquer à un usage raisonné des écrans, limiter le temps. Et pour cela, nous avons inventé des petits jeux, avec Elena d'ailleurs, et la fondation La Main à la Pâte de l'Académie des sciences, où deux enfants jouent ensemble face à un écran. L'un des deux, comme ce petit garçon qui était dans le reportage, joue intensément, voit des images, des mouvements, des personnages, et l'autre un chronomètre et mesure le temps qui passe. L'enfant qui a joué doit ensuite inférer le temps qu'il a passé, dire combien de temps tu as joué, et l'autre a le temps du chronomètre. Et le temps subjectif, le temps ressenti par le joueur, est toujours inférieur au temps réel. Et cette différence entre le temps subjectif et le temps objectif entraîne une prise de conscience du joueur face à l'écran du temps qui passe et du fait qu'il le sous-estime toujours. Et une fois que vous avez joué à cela à l'école avec des enfants ou à la maison et que les rôles s'inversent, celui qui tenait le chronomètre joue ensuite, eh bien, ça crée ce qu'on appelle de la métacognition, c'est-à-dire on réfléchit autant qu'on passe face à l'écran. Et c'est cela l'éducation aux écrans, des processus fins comme ça, avec des jeux très simples.
Comment bien utiliser les écrans à chaque stade du développement des enfants ? Nous allons en parler dans la suite de cette émission. Et puis pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis à quoi bon? T'es tellement seule derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler, ou j'oublie tout et je m'en vais. Yeah, moi je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon? T'es tellement seule derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Tu les laisses tous indifférents. Et puis à quoi bon? T'es tellement seule avec ton argent. Tu sais même pas pourquoi t'es tout le temps avec des miches sans sentiments. Au fond, j'avoue que même moi, je fais partie de ces gens-là. Rassurée quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune. Tout le monde il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la thune. Tout le monde il veut seulement la fame. Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Tout le monde il veut seulement la fame. Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tout le monde il veut seulement la thune. Tu penses à ce que vont penser les gens.
C'était La Thune, chantée par Adèle.
La tête au carré, Daniel Fievé.
Autour de la table, deux chercheurs spécialistes de l'apprentissage et de l'effet des écrans du numérique sur le cerveau des enfants. Olivier Houdet, auteur de Apprendre à résister aux éditions Le Pommier, et Elena Pasquinelli, comment utiliser les écrans en famille chez Odile Jacob. Alors, y a-t-il un âge avant lequel les écrans sont à proscrire entièrement, Olivier Houdet?
Ce qu'il faut vraiment proscrire, et nous l'avions indiqué dans un rapport réalisé avec l'Académie des sciences il y a quelques années, ce sont les enfants face à la télévision, par exemple, de façon passive, où des images qui ne correspondent pas à leur âge, des messages ou des images violentes leur sont présentées. Donc il faut vraiment proscrire, interdire l'exposition passive des enfants aux écrans, et je dirais avant 6 ans, si possible. En revanche, l'utilisation éducative entre un adulte ou un grand frère et une grande sœur et l'enfant autour d'un écran, où l'enfant n'est pas seul, pour moi, doit être engagé avec des bonnes pratiques.
En fait, vous faites une différence très importante entre la télévision, l'écran de télévision, et puis tous les autres écrans qui sont en fait des interfaces du numérique. D'ailleurs, Jean vous demande, y a-t-il des études portant sur les enfants qui sont nés avec le téléviseur allumé 24 heures sur 24? C'est pas vraiment le même problème, Elena Pasquinelli, l'écran de télévision et l'écran de tablette ou de smartphone.
tous les écrans sont différents. L'écran des télévisions peut nous raconter des magnifiques histoires qui sont des films saisissants, qui suscitent nos émotions, notre empathie, qui nous permettent d'entrer en contact avec, via les documentaires, des aspects de science comme ceux que vous racontez, qui nous font rêver. Donc la télévision aussi, c'est des usages, ouais. C'est des contenus comme les autres écrans. Bien sûr, on est plus passif, il y a une utilisation différente, mais est-ce qu'on est passif quand on lit un livre sur une tablette, parce qu'on ne bouge pas, on ne clique pas, mais on interprète quand même, on fait un effort cognitif pour comprendre, qu'on peut faire aussi face aux images d'un film. Je pense que beaucoup dépend vraiment de l'usage qu'on fait, de l'attitude qu'on a face à ces contenus.
Olivier Houdet.
Mais ce qui peut être catastrophique, et là il y a des études américaines, des neuropédiatres américains qui montrent que des enfants en tout bas âge, à 1 an, 2 ans, où ils devraient au contraire être dans des vraies relations sociales, apprendre le langage, parce que ce que l'on appelle le bain linguistique, c'est-à-dire ce qu'ils entendent autour d'eux, et commencer à faire des liens entre les sons qu'ils entendent et ceux qu'ils vont produire ensuite. Il y a vraiment des mécanismes d'appariement psycholinguistique dans le cerveau. Eh bien, passif face à une télévision, un bébé ne peut pas du tout faire cela. Donc, c'est en effet, dans ce cas-là, assez catastrophique pour l'acquisition du langage et la construction des relations sociales.
Donc, vous êtes assez d'accord avec cette recommandation du CSA actuel, pas d'écran, mais là, il parle vraiment de la télévision, le CSA, quand il dit ça, pas d'écran avant 3 ans.
Je participe à plusieurs comités du CSA qui prévoient ce genre de recommandations, mais il faut prendre ça, disons, comme un bon conseil pour que les parents prennent conscience du fait que l'enfant tout seul face aux écrans risque de ne rien apprendre, de s'ennuyer et de manquer de stimulation sociale et cognitive plus active, je dirais. En revanche, je pense qu'on est en train d'exagérer en France à vouloir interdire les écrans à tel ou tel âge. Simplement, une raison très connue des psychologues depuis Alfred Binet au début du XXe siècle, c'est qu'il y a une différence entre l'âge mental et l'âge chronologique d'un enfant. Tous les enfants sont différents, tous les cerveaux sont différents. Donc il n'y a pas un enfant de 3 ans le même qu'un autre. Ouais. Donc il ne faut surtout pas s'enfermer, c'est un peu excessif, dans des interdictions par âge. Il faut plutôt essayer de comprendre chaque enfant avec des règles de bonne conduite, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, s'entraîner à mesurer et auto-évaluer le temps qui passe face à l'écran. Et il y a d'autres pratiques que l'on pourra évoquer.
Elena Pasquinelli, vous êtes d'accord avec cette idée que avoir une règle très stricte avec des sortes de caps et à chaque âge son type d'écran et son temps d'interaction possible par jour, ça n'a pas tellement de sens selon vous ?
Ça n'a pas tellement de sens, à mon avis, pour plusieurs raisons. Une, c'est qu'on n'a pas, pour l'instant, des connaissances suffisamment précises, effectivement, sur l'impact que ça pourrait avoir pour donner des indications extrêmement précises. Avant 3 ans, après 3 ans, c'est une limite extrêmement nette et précise. On a des connaissances qui sont comme des boussoles, pour le moment, pour nous orienter. Et il faut les utiliser pour orienter nos choix. Mais ces choix vont dépendre aussi beaucoup de chaque cadre familial, de chaque situation. On risque, si on donne des indications trop nettes, du moment où on ne peut pas s'y tenir, tout simplement de ne plus se tenir à rien, de ne plus faire l'effort de réfléchir au bon usage, au dialogue avec ses enfants, ou pour les plus petits, à l'observation, comme
tout
le disait Olivier, de ses enfants.
Et j'ajoute, cela culpabilise des parents. Moi, des parents, sachant que je suis spécialiste du développement cognitif, sont venus vers moi en me disant, j'ai vu à l'école ou dans un centre médical une affiche interdiction de tel ou tel type d'écran avant tel âge. Et les parents me disant, mais moi, mon enfant était exposé à ces écrans. Donc, pour créer, disons, une aide psychologique, en fait, on crée des problèmes. Ouais. Donc, soyons beaucoup plus fins, précis. Tous les enfants sont différents. L'âge chronologique n'est pas le même que l'âge mental. Et c'est en effet, comme le dit très bien Elena, une question de conscience éducative, de cadre familial ou en lien avec l'école. Mais sans qu'il n'y ait trop à l'école un langage négatif à l'égard des écrans. L'interdiction faite des écrans en classe est une évidence. Moi, je suis instituteur, je n'aurais pas toléré une seconde que mes élèves tiennent un écran alors que nous faisions une leçon. En revanche, il faut réfléchir aux messages politiques que l'on envoie concernant les écrans, et s'ils ne sont que négatifs, on oubliera l'éducation aux écrans. Et je voudrais vous dire le slogan de l'Académie des technologies dont je suis membre, c'est « Pour un progrès raisonné, choisi et partagé ». Eh bien, il faut, avec les écrans, l'intelligence artificielle, le numérique, utiliser les leviers d'un progrès raisonné, choisi et partagé.
François nous envoie ce message. Qu'en est-il des adultes ? Les adultes qui ne sont que de vieux enfants sont partiellement fasciné par l'image animée en couleur qui fait du bruit, la machine à décérébrer, comme le disait Jean-Christophe Averty, est redoutablement efficace à tout âge. Finalement, on est en train de parler des enfants, mais est-ce qu'on ne devrait pas commencer par la poutre qui est dans notre œil et dans notre écran?
Sûrement. S'interroger sur notre utilisation des séries télé, par exemple, ouais, jusqu'à 4h du matin, quand on se réveille à 6h pour aller au boulot. Mais je pense que il n'y a pas d'âge pour être attiré par un écran, comme il n'y a pas d'âge pour être attiré par une bonne histoire. Hein. Ouais. Quand on vous la raconte le soir à dîner, enfant ou adulte, vous êtes captivé. Il n'y a pas d'âge parce que les écrans, et là, différenciant un peu, disons, un jeu vidéo, par exemple, ou une série télé, comportent des ingrédients desquels on est friand, desquels notre cerveau, de façon générale, est friand, pas que le cerveau des enfants.
Oui, vous dites, et la métaphore est assez parlante dans votre livre, vous dites que ce numérique, il faut le voir comme une sorte de gros gâteau, comme un dessert appétissant. Et ça explique pourquoi notre cerveau, qui n'a pas tellement changé depuis celui de l'homme des cavernes, fonctionne et est aussi réactif à cet outil pourtant relativement récent, hein, apparu tout récemment dans l'évolution.
Absolument, et c'est une idée que j'utilise un peu parce que ça me parle, parce que j'arrive pas à résister au gâteau, mais aussi parce que c'est un peu une idée qui s'oppose à un discours que j'ai beaucoup entendu, qu'on entend beaucoup autour de nous, celui de la mutation anthropologique, c'est-à-dire ces enfants, ils sont plus les enfants d'antan, hein, ils ont changé, ouais, ils ont muté, ouais, et c'est la faute aux écrans qui les ont changés d'une façon drastique et radicale. Ouais. On entend parler de natifs numériques, par exemple, comme si le bain numérique avait changé leur cerveau d'une manière dangereuse, parce que ça coupe encore plus la possibilité des dialogues avec les parents.
Alors l'idée de l'enfant mutant, vous la réfutez?
Je la réfute complètement. Je pense qu'en réalité, si on veut vraiment comprendre la fascination des écrans, plutôt que chercher à comprendre comment ils nous ont changés, il faudrait chercher à comprendre pourquoi on les a fait comme ça. C'est-à-dire pourquoi on les a fait de manière telle qu'ils nous plaisent. Mmh. Et on les a fait comme ça, on a fait des jeux vidéo, si on veut les regarder, qui comportent tous les ingrédients pour lesquels notre cerveau est prêt à réagir, ouais, face auxquels notre cerveau est prêt à réagir rapidement. Il y a dedans une histoire qui est captivante avec des anecdotes. Il y a des quêtes de causes, des causes et effets. Et là, on sait que le bébé, dès sa naissance, et à 18 mois de façon très très forte, cherche déjà les causes. Donc c'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. Il y a des stimuli visuels, des stimuli auditifs, des fois fort surprenants. Ouais. On est fait pour se surprendre, sinon on aurait raté le tigre qui allait menacer.
Tout ce qui a assuré notre survie dans le passé est regroupé dans ces écrans pour capter notre attention, voilà, nous donner envie.
En partie.
Alors, je voudrais vous faire écouter, parce que aussi la façon dont sont organisés les réseaux sociaux, c'est aussi fait pour nous appâter. Et en 2017, Sean Parker, ancien président de Facebook, l'a admis de façon assez explicite.
Toute notre réflexion était la suivante. Comment est-ce que nous pouvons vous prendre le maximum de temps et d'attention possible? Ça veut dire que nous devons vous envoyer un petit shoot de dopamine de temps en temps. Quand quelqu'un aime ou commente l'une de vos photos ou un post, c'est censé vous amener à vous investir encore plus pour obtenir encore plus de likes ou de commentaires. En fait, c'est une boucle de validation sociale.
On joue avec notre cerveau, avec nos réflexes ancestraux, et c'est là, Olivier Houdet, où vous dites « il faut que l'on apprenne à résister ».
Absolument. Le titre de mon livre est pour moi un slogan ultra contemporain, c'est la résistance cognitive. On vient de parler des écrans comme une sucrerie. Et en effet, on doit quelquefois, pour notre alimentation, apprendre à résister aux sucreries. Eh bien, il y a aussi dans notre cerveau, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, en partie les aspects ancestraux, il y a aussi dans notre cerveau une région très élaborée à l'avant, derrière notre front, le cortex préfrontal, qui a cette capacité de résister. Ce qu'on appelle l'inhibition cognitive, au sens positif du terme. Résister à un circuit cérébral trop rapide. Résister à un automatisme et une heuristique. Et donc, une heuristique, c'est une stratégie très rapide, très efficace, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Les écrans, et ça a été très bien dit par le directeur des réseaux sociaux, mobilisent ces heuristiques. Et nous tombons dans le piège. Or, nous avons aussi dans notre cerveau un système inhibiteur qui nous permet d'inhiber ces heuristiques pour activer nos algorithmes. On a aussi des algorithmes dans le cerveau. Logique, de raisonnement que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, vous comprenez que tout l'enjeu est d'apprendre aujourd'hui au cerveau humain cette résistance cognitive qui, pour moi, est une pédagogie du cortex préfrontal. Et cela, on n'en est pas encore assez informé. Ouais. Et c'est la clé de beaucoup de questions contemporaines, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Ça vaut aussi pour les heuristiques sociales. Dans un réseau social, on tombe tous dans la même croyance. Ça crée le communautarisme. Il faut apprendre à y résister quelquefois pour avoir l'esprit critique, le recul. Eh bien, il y a des neurones et des parties du cerveau qui ont cette fonction. Encore faut-il le savoir et bien les exercer.
Oui, on va apprendre à les exercer. Puis nous allons parler de l'impact des écrans sur les relations sociales dans un instant. Et vous répondrez aussi, Elena Pasquinelli et Olivier Houdet, aux questions que les auditeurs de La Tête au Carré vous ont adressées. C'était Fatoumata Diawara, Bonia sur France Inter. La programmation musicale est signée Thierry Dupin.
Moi, depuis que j'ai un iPhone, enfin un smartphone, je suis pas spécialement accro. J'arrive vraiment à l'utiliser avec modération.
Faux !
On se rend compte que le smartphone, c'est vraiment une drogue quand on passe une soirée avec ses potes comme ça. Et ça vous dérange pas, on fait une photo pour Instagram ?
Ah, ok.
Ouh, ouais !
C'est vrai qu'avec les smartphones, on dirait que les gens ils kiffent plus la vraie vie. Quand tu vas à un concert, il y a tout le monde qui filme et personne ne regarde le truc en live. Alors qu'en plus, tu sais très bien que cette vidéo, tu vas jamais la regarder. Eh hey mon gars, hier j'étais à un concert, c'était tellement énorme. Matt. Ah ouais? Et c'était quel groupe? Ah ça, je sais pas, par contre je filmais donc... Mais j'avoue, moi-même je suis tellement habitué à être sur mon smartphone tout le temps qu'il y a des moments où quand je l'utilise, je me rends même plus compte.
13€ plus 4€, ce qui nous fait un total de... De combien déjà?
Attendez, je vous le fais de tête. De tête, ça fait 13 plus 4, 17.
Voilà, exactement.
extrait d'une vidéo du youtubeur Norman, invité de cette tête au carré, Elena Pasquinelli, chercheuse en sciences cognitives et philosophe, et Olivier Houdet, chercheur en psychologie du développement et de l'éducation. On s'intéresse aux effets du numérique et des écrans sur les nouvelles générations, pour les rapports sociaux et puis pour le rapport au monde, hein, un peu comme Norman s'en amusait dans sa vidéo. Quels impacts ont ces réseaux sociaux, ce tout numérique?
Bah, on a entendu effectivement cette délégation à l'objet, cette externalisation, on l'a déjà dit, comme au GPS, par exemple de sa mémoire. Mmh. On vit une soirée et on est déjà prêt à la mettre en boîte pour s'en souvenir après, mais sans besoin de faire l'effort de s'en souvenir parce qu'elle sera quelque part dans notre téléphone. C'est aussi un signe de l'importance, si on veut être positif, comme pour nous, être humain, pas que des adolescents, mais les adolescents en particulier, les relations sociales. Mmh. Savoir qui fait quoi avec qui, c'est quelque chose qui a une longue histoire. Hein. Imaginons-nous de nouveau dans nos villages anciens, un peu de membres, c'est important de savoir qui est le chef, où sont mes amis, qui sont mes amis, etc. On le retrouve donc dans l'utilisation qu'on fait du téléphone et d'autres écrans. Le savoir nous permet effectivement de nous dire, comme on a entendu au début, non, c'est pas si facile que ça que contrôler l'utilisation. Ça va nous échapper. Il faut peut-être mettre en place des stratégies pour s'empêcher de l'utiliser tout le temps, même quand on ne voudrait pas.
Olivier Houdet, Cécile demande, mon fils de 12 ans a de grandes difficultés d'apprentissage, de lecture, d'écriture et de concentration. Quel conseil pour que son usage de la tablette puisse lui être bénéfique plutôt que délétère, type de jeu, temps passé, demande-t-elle.
Il faut qu'elle se renseigne sur les jeux éducatifs qui existent. Il y en a pour la lecture, pour les correspondances graphophonologiques ou des petits jeux de compréhension. Il y en a aussi pour l'exercice du nombre et des mathématiques. Il vaut mieux se référer à des jeux qui ont été créés ou conçus par des laboratoires de sciences cognitives, donc vraiment des laboratoires spécialisés dans ces processus. Et par ailleurs, l'écran n'est pas la solution à tout. L'écran n'est pas sans doute la source de ces problèmes ni la solution à tout. L'avantage des jeux sur écran, c'est que vous avez un feedback direct, c'est-à-dire que lorsque l'enfant répond quelque chose, il sait s'il a réussi ou non. Et ça, on ne l'a pas toujours en classe. Et donc, cette progression individuelle de chaque enfant en lecture, en mathématiques, lors d'un jeu sur l'écran, fait qu'il est à la fois motivé et qu'en plus, son cerveau sait calculer la différence, l'écart entre ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas encore faire parce qu'il a immédiatement un score de jeu, donc ce qu'on appelle dans le cerveau un circuit de feedback, de récompense.
Elena Pasquinelli, qu'est-ce qu'on conseille finalement aux familles, puisque votre ouvrage c'est comment utiliser les écrans en famille, comment on s'y prend pour qu'ils ne prennent pas toute la place?
C'est difficile de donner des conseils précis ou des recettes, il faut se retenir de ça, chaque famille est différente. Mon conseil, c'est celui de chercher à les comprendre ensemble, c'est-à-dire même et chercher à comprendre non seulement l'écran lui-même et l'utilisation, mais qu'est-ce qu'il y a derrière notre boîte crânienne, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré, comme on l'a dit, que notre attention est mise en danger certaines fois et que, par exemple, notre mémoire peut être importante même si on ne s'en rend pas compte. Donc faire des petits jeux avec nos enfants pour se rendre compte en même temps de ces difficultés. Et après, prendre des décisions ensemble, des stratégies ensemble.
Et apprendre à résister, c'est le titre du livre d'Olivier Houdet. Absolument. Aux éditions Le Pommier. Et puis je rappelle le titre du livre d'Elena Pasquinelli chez Odile Jacob, Comment utiliser les écrans en famille. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés. Juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle affaire sensible. Aujourd'hui, Fabrice revient sur le 13 mai 1981, le jour où on a voulu tuer le pape Jean-Paul II.